Vous écoutez France Culture. Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Quatrième émission de cette série exceptionnelle consacrée à Pierre Guyotat. Aujourd'hui, les années road movie. Aujourd'hui, le combi Volkswagen. Formation,
oui.
Qui est un livre absolument incroyable parce qu'il procède à la fois sur le plan stylistique mais aussi sur le plan de la technique mémorielle comme une espèce de remontée des sédimentations,
oui.
De strates,
oui.
De vie. Vous parlez beaucoup plus de votre mère que de votre père.
Oui, bien sûr. Oui.
Et vous faites un tableau parce que c'est le mot tableau qui s'impose
oui.
Dans Formation.
Oui.
De votre mère comme d'une femme qui est l'incarnation de la dévotion, de l'humilité, de la générosité, de l'effacement.
Et de la beauté.
Ah ben, parlons pas de la beauté,
et
oui,
la beauté,
de la
beauté,
plus belle femme du monde.
Et de... Oui, mais ça, tous les enfants, évidemment, peuvent dire ça de leur mère, mais bien entendu. Mais réellement, oui, réellement, elle avait quelque chose de... Bon, exceptionnel, le mot est idiot et faible. Quelque chose de sain, je pense. Elle n'était pas dévote, hein, pas du tout. Pas dévote du tout, même assez... pas ironique ni sceptique, mais très simple avec la foi. Très simple. Une foi très simple. Mais surtout, elle était extrêmement... elle était en empathie avec le monde entier, vraiment. Tout le temps. Elle était tout le temps... je veux dire, enfin, la voir lire le journal, c'était extraordinaire. Même un journal local, elle était immédiatement sensible à tout, elle se tourmentait de tout, elle rêvait tout le temps, elle était tout le temps, c'était pas du rêve du reste, elle était tout le temps avec les autres, tout le temps. Les autres, avec ses frères et sœurs aussi, son passé, mais aussi les gens qui vivaient, les gens qui allaient vivre l'avenir. La France était très patriote.
Il y a une scène d'information où vous expliquez que elle attend dans la cour de votre maison
oui.
L'arrivée de son frère.
Oui. Enfin, elle apprend la confirmation de la mort en déportation de son frère, de son plus jeune frère, qui était comme notre frère aîné, on va après dire. Hein, qui avait quoi? Qui avait 23 ans quand il est mort. Donc, qu'elle a élevé, elle. Et qui venait très souvent chez nous, qui faisait des photos, qui s'amusait avec nous. Et qui était fond, qui avait quoi, quelques années de plus que mon frère aîné, vous voyez. Donc, je me souviens très bien de ce moment-là, bien entendu. Elle a été tout à fait inguérissable de cette mort, du reste.
Elle a changé de regard.
Oui, elle a changé, elle a été inguérissable, mais elle a toujours vécu d'une façon très digne, toujours. Digne, mais très amusée aussi, pas du tout dévote, ni, vous voyez, pas du tout. Très... calme, avec une très belle voix qui recouvrait tout. Évidemment, un goût artistique assez un peu arrêté, si vous voulez. Pas. Mais elle était très intéressée par ce qui pouvait se faire de nouveau. Elle savait que, même si elle ne l'approuvait pas, que l'art évolue, l'art bouge. Qu'il y a des révolutions en art comme il y a des révolutions en politique. Ça, elle le savait. Et c'est très important, ça, parce que ça ne se sait même plus aujourd'hui. C'est assez oublié, maintenant, ça. Ce sentiment historique de l'art, si vous voulez. C'est même beaucoup combattu par les nouveaux conservateurs, vous savez, les nouveaux réactionnaires. l'absurdité. Elle était très consciente de ça. Même si elle n'approuvait pas elle n'approuvait pas, elle était très contente quand Picasso revenait aux formes, si vous voulez, après le cubisme. Mais elle aimait beaucoup les choses du cubisme par ailleurs. Elle était très, très sensible à la peinture, très sensible à la peinture, à la musique beaucoup aussi.
C'est d'elle que vous tenez votre amour de la musique ?
Oui, mais alors là, elle allait assez peu loin. Elle était, effectivement, elle allait plus loin en peinture, comme on dit. Oui. Parce qu'en fait, elle pratiquait, parce qu'elle peignait elle-même un petit peu. C'est auprès d'elle que j'ai appris à peindre et à dessiner.
Et on peut dire qu'il y a certains passages de certains de vos livres, on parlait de formation, mais aussi arrière-fond, où ce sont de véritables compositions.
Oui.
Comme un peintre va faire un tableau.
Il le faut, oui. Même dans
avec
projet...
des aplats de même couleurs,
même
projet...
même
avec
même
des
même
lumières.
Dans Progéniture. Progéniture est un livre qui plaît beaucoup aux peintres, parce que c'est de la peinture, vraiment. C'est des tableaux, des entremêlements de corps, de membres, ce sont des tableaux, effectivement, et des couleurs. Et vous verrez, je ne mélange pas les couleurs l'une sur l'autre, je les juxtapose. Je n'utiliserai jamais le mot vermillon, par exemple, ou terre de sienne, par exemple. Je mettrai côte à côte la composition qui fait terre de sienne ou qui fait vermillon, si vous voulez. Je mettrai jamais, là, je mettrai brun, machin, etc. Je me refuse absolument à mettre le mot technique, si vous voulez. Il faut trouver, mais le style, c'est ça. Il faut trouver des mots qui soient des mots artistiques, des mots littéraires, si vous voulez. Pas les mots techniques. Très peu de mots techniques. Ou alors, quand on est obligé d'utiliser un mot technique, il faut le transformer vraiment. Il faut le magnifier, si vous voulez. Ou s'amuser avec un petit moment, pendant quelques pages, puis le lâcher, puis une fois que c'est compris.
Oh. Il y a la langue, il y a la syntaxe, mais il y a la ponctuation aussi.
La ponctuation. Oui.
Qui est très très importante.
C'est du jeu, c'est beaucoup de jeu tout ça. Vous savez, on croit que j'ai écrit avec des trucs, pas du tout. Je m'amuse beaucoup à écrire, quand ça marche évidemment.
Et il faut quoi pour que ça marche ?
Ben, il faut que ça marche, il faut que ça...
Non mais il y a des conditions. Ben,
il faut que les idées viennent, qu'il y ait cette simultanéité de la volonté et de l'émotion, qui n'est pas toujours simultanée. Hein. Il faut faire en sorte que toutes les fonctions soient en même temps à l'œuvre. Le cœur, le corps, l'esprit, la mémoire, le désir aussi, le désir d'écrire, le désir tout court, ça fait beaucoup de choses. Ce qui fait que c'est de là que vient, d'une certaine façon, aussi le supplice de l'écriture, comme de l'art. C'est pas... Car il existe, ce supplice-là, quand même. Bon.
Parce qu'il y a des jours sans.
Il y a des jours sans. Il peut y avoir des jours sans, oui. Mais j'ai remarqué qu'on se rattrape toujours en fin de journée. Quoi. On se rattrape toujours... On peut travailler pendant toute la journée, et puis la dernière demi-heure, ça y est, c'est parfait. Donc la journée n'est pas perdue.
Mais dans certaines périodes de votre vie, Pierre Guyotat, il y a eu des moments où vous n'écriviez pas, parce qu'on n'a pas parlé non plus de Guyotat, le militant, le subversif. En 68, par exemple, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment vous l'avez perçu, ce mouvement ?
Moi, en 68, je revenais du fin fond du Sahara, avec mon car, avec quelques amis.
Alors voilà, je voulais parler du car, parce que j'ai une photo devant moi, qui est extraite d'ailleurs d'une revue excellente, qui s'appelle la revue Europe,
oui.
Un numéro qui date de 2005, où il y a un entretien formidable avec vous.
Il y a du reste un numéro d'Europe qui m'a été consacré.
Absolument. Et il y a une photo. Oui. Donc cet entretien a été fait avec Catherine Brun, qui connaît remarquablement votre œuvre. Et il y a une photo en début de cet entretien où on vous voit Sahara, mars 1968, le combi Volkswagen de Pierre Guyotat sur le plateau du Tadémite.
Oui.
Oh, c'est quoi cette histoire de combi ?
C'est un plateau de mémoire difficile, de mémoire pénible.
C'est le côté Beat Generation.
Je ne sais pas.
Vous savez, Jacques Kerouac.
Non, je n'ai pas tellement réfléchi à ça. Vous savez, Ce genre de choses, je n'ai pas tellement réfléchi à ça. Même maintenant, je ne réfléchis pas.
Vous avez inventé tout seul, alors ?
Non, mais bien sûr. Mais parce que je suis
c'est devenu une mode, alors, vous l'avez lancé.
Non, peut-être. Je suis surtout... Non, mais j'ai lancé d'autres modes. Hein.
Ah
mais
bon ?
Oui, mais ça, bon, comme je ne fais pas de conférences de presse, ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme conférence de presse ? Après toutes les choses. Non, c'est venu parce que j'ai voulu revenir en Algérie après. J'ai commencé à revenir à pied, j'ai commencé à revenir... après, j'ai eu la deux chevaux. Je suis allé assez loin, mais ce n'était pas suffisant. J'ai voulu, après, être beaucoup plus autonome. J'ai donc, avec l'aide d'un chèque de Gaston Gallimard, je suis vite allé acheter un combi Volkswagen 9 pour faire la mise de fonds. À l'époque, vous voyez, on pouvait aller chez son éditeur et puis... voilà.
Lui demander de quoi s'acheter une voiture pour partir au bout du monde.
C'est un nouveau modèle qui vient de sortir, il y en a très peu en France. Je faisais un peu ce que je faisais avec ma mère quand je voulais des disques.
C'est-à-dire ?
C'est drôle, on ne change pas finalement, c'est amusant. Je dis, quand j'étais adolescent, quand j'avais besoin d'un disque, j'avais tellement besoin de musique, et je disais, quand je rentrais du collège, j'ai vu à Saint-Étienne, le libraire, il y a un disque... Il est très rare et il faut vite l'acheter parce qu'il va disparaître du catalogue ou des trucs comme ça, etc. Et ma mère, évidemment, se laissait, il n'était pas riche du tout, hein. Il était même très juste. Elle se laissait en général convaincre. Donc je repartais avec la somme avec laquelle je pouvais acheter. Et donc avec Gallimard, avec Gaston, j'ai fait un peu la même chose. Je lui ai dit, c'est un modèle, voilà, il coûte beaucoup moins cher maintenant. Il est en quelque sorte en promotion, un modèle en promotion. Après, il coûtera beaucoup plus cher, et moi, ça me coûtera beaucoup plus cher. Est-ce que ça serait possible, etc., etc. Et voilà.
Mais ça a duré combien de temps, les années combi, alors ?
Les années combi, ça a duré pas mal de temps. Ça a interrompu par la crise que j'ai eue en 81. Mais, parce qu'il me fallait un habitacle, il fallait quelque chose de plus grand, c'est tout, que la deux chevaux. Quelque chose de plus...
Oui, enfin, vous
c'est
êtes...
Tout. C'est pas du tout...
Vous êtes vraiment un nomade. Hein.
Je voulais aller dans certains endroits, et je voulais d'abord... J'aimais beaucoup conduire. J'aimais non conduire. Non, je n'ai plus conduit depuis très longtemps, mais j'aimais beaucoup conduire. J'aimais beaucoup conduire dans les routes, dans les chemins, etc. J'aimais beaucoup traverser des endroits difficiles, etc. Ça m'intéressait beaucoup. Vous savez, j'avais vu mon père beaucoup... aller dans la montagne, tout ça. Et
ça, vous en parlez très bien dans formation.
Moi, c'est d'avoir une auto.
Et d'aller dans les chemins à l'inconnu.
Voilà. Et j'avais vu mon père, j'avais vu faire mon père, et j'ai du reste, quand j'ai eu mon permis de conduire et que je l'ai conduit une fois, il était très surpris. C'était au moins quelque chose qui était positif chez moi. J'avais mon permis de conduire.
Il n'y avait pas la figure de Rimbaud aussi.
Alors que j'avais publié HB et Tombeau déjà, vous voyez, mais ce qui. Pour lui, ce qui était le plus important, c'était que j'ai mon permis de conduire.
C'est important d'avoir le permis.
Oui.
Mais ces années combi, il n'y avait pas le côté rimbaldien aussi, non. D'aller dans des terres inconnues
non,
et de se perdre.
J'ai été rimbaldien moi, au début, comme on a tous été à 16 ans. Pas du tout. Non, parce que c'était pas rimbaldien ce que je vivais. J'étais comme quelqu'un qui voyageait, c'est tout. Qui essayait d'en voir le plus possible... avec toujours ce tourment qu'on a toujours quand on voyage, de passer à côté de tout. Vous savez, alors que vous voulez quoi quand vous voyagez ? Quand vous voulez vraiment voyager, ne pas faire de tourisme, voyager vraiment. Vous voulez quoi ? Vous voulez connaître les gens, entrer chez les gens, même être quasiment de la famille presque, vous voyez, voir comment ça se passe intérieurement. Pas seulement les objets, qui étaient des objets tellement humbles là où j'allais, tellement modestes, tellement pauvre, mais tellement beau, que c'était ça. C'était être comme eux, presque, si vous voulez. Savoir comment ce qu'ils pensaient. Ouais, un peu comme ma mère, ce qu'ils pensaient, parce qu'ils pensaient forcément des choses. C'est pas de ceux qui croient que les gens qui ne savent pas lire ne pensent pas, si vous voulez. Au contraire, je pensais qu'ils avaient une pensée extrêmement intéressante. Et donc, ça marche, mais c'est fatigant aussi. Vous savez, quand vous avez fait plusieurs kilomètres par jour, vous avez installé votre car, c'est difficile, il y a la neige quelquefois, etc. Il y a les rochers, il faut descendre, vous avez peur, etc. Puis vous arrivez, vous, Vous êtes obligé, c'est pas facile de rêver dans, c'est des gens d'une civilisation autre, d'un temps autre aussi, vous savez. Vous avez le feu qui est au fond de la pièce, tout est en fumée, vous avez des moutons, tout. Il faut donc s'adapter. S'adapter, c'est un effort. Alors que vous auriez peut-être envie d'aller dans le transatlantique, qui est à Biskra, ou je ne sais pas où, vous savez, les hôtels transatlantiques. Peut-être, ou je sais pas, dans une. Lire, par exemple, au coin du feu, tranquillement, avec une tasse de thé à côté, mais pas du tout. Là, vous êtes vraiment dans le. Vous voyez, chez le paysan, chez le fellah. Donc, il faut vraiment. Avec comme ça des gosses, des animaux, les grands-mères, les grands-pères, les. Et tout. Il faut donc réfléchir, il faut être là tout en étant. Il faut être très discret, il faut être délicat, il faut être ci, il faut être ça. Il faut manger exactement ce qu'on vous dit de manger. Tout ça demande beaucoup de. Même si vous êtes très curieux de nature, ça demande beaucoup d'efforts. Quand vous avez conduit toute la journée.
Mais vous n'avez jamais eu la tentation de rester quelque part et de faire partie d'une communauté.
Oh, moi, je suis resté.
Et de ne pas repartir.
Oh, moi, je suis resté. Je suis resté longtemps dans certains endroits. Je n'ai pas de souvenirs.
Des mois et des mois.
Oh, peut-être pas des mois, mais des semaines. Je suis resté longtemps, mais quand je me sentais bien.
Et on vous acceptait
mais
à chaque
tout
fois.
Tout à fait, mais tout à fait. Aucun problème.
Vous aimez bien faire partie d'un corps.
Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, c'est sûr. Mais encore maintenant, oui, c'est sûr.
Oh, maintenant, vous êtes plus solitaire, quand même.
Non, oh non, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de la solitude. J'ai horreur de la solitude, non, j'ai horreur de ça. Ben, je veux dire, je le prouve tout le temps, j'aime pas ça, du tout.
Vous n'êtes pas
non, pas du tout.
Vous n'êtes pas un mondain, quand même.
Oui, mais il y a autre chose que le monde. Il y a autre chose que ce qu'on appelle le monde. Il y a les amis, il y a des groupes humains qu'on fréquente. On n'est pas obligé de fréquenter le groupe humain de... Le groupe humain qui est, le groupe humain, on fréquente les individualités de ce groupe humain. Le groupe humain ensemble, c'est autre chose. Et puis c'est un groupe que je connais, dont je connais les habitudes. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans un groupe autre, si vous voulez. Autre, avec d'autres habitudes, d'autres... Je suis moins curieux de ça maintenant, mais j'en ai beaucoup la nostalgie. Et parce que j'ai trop de travail là, mais sinon je le ferai. Puis évidemment j'étais très jeune à cette époque là on peut pas agir à l'âge que j'ai maintenant comme j'agissais à l'époque, si vous voulez. Je pourrais, mais c'est plus fatigant d'abord, et puis c'est,
vous pourriez repartir avec
c'est un
votre
peu complexe
combi, hein.
Non, pas du tout, j'ai plus envie de tout d'aller comme ça, non, sans rien, aucune responsabilité technique.
Vous parliez tout à l'heure de cette crise en 81.
Oui.
On a l'impression que peut-être elle s'est ourdie pendant des années, quand justement vous partiez sur les routes. Puis il y a eu un moment où il y a eu ce véritable effondrement.
Oui.
On appelle ça comment ? Une crise, une dépression ?
Moi, je dis une
crise. Vous avez écrit ce livre « Coma ».
Oui.
Mais on a l'impression, en le lisant, qu'il s'agit d'une perte de défense complète.
Une perte de défense, oui, certainement.
Et d'essayer d'aller au noyau le plus infracassable de notre identité, quoi. Tout s'en va, tout s'en va.
Vous savez, moi, j'ai jamais voulu, je suis jamais allé au devant de la difficulté, je peux dire.
Ben si.
Non, non.
Pendant la guerre d'Algérie.
Non, non, mais on pense toujours ça de moi, mais c'est faux. Naturellement, je ne vais pas au-devant de la difficulté. Je ne la refuse pas quand elle est là. Mais je ne vais pas au-devant. Mais c'est la difficulté qui vient à moi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et là, ben, je me débrouille. Et là, par exemple, je n'avais pas prévu. Parce que vous savez, quand on redécouvre la littérature, quand on a 16 ans, 17 ans, alors Rimbaud, tout ça, Les Poètes Maudits, et puis après, un peu plus tard, Artaud, tout ça, etc., Hölderlin, bon, on dit c'est formidable, quelle vie magnifique, etc. Et puis on n'imagine pas une seconde que c'est affreusement douloureux, tout simplement, à vivre de cette façon-là. Ou Kafka, ou je ne sais qui, ou tant d'autres, ou Musil, ou d'autres. Et tant d'autres qui ne sont pas considérés comme tels, mais qui ont eu des vies dures, des vies difficiles, si vous voulez. Et quand vous... Et donc, je ne vois pas la chose venir, moi. Je suis allé là-dedans, j'ai écrit tout ça, je suis allé très loin dans la radicalisation, aussi avec le livre, par exemple. Je me rends compte en ce moment...
Le livre, c'est le titre d'un de vos ouvrages.
Le livre qui s'appelle Le Livre,
voilà.
Oui. Je m'en rends compte maintenant parce que je travaille un petit peu avec ma traductrice russe en ce moment, qui traduit ce texte. Et je vois l'impact
que ça a sur... C'est difficile à traduire.
Que ça a sur moi, mais non, mais il y arrive très bien. Et c'est extrêmement radical. Et si vous voulez, je suis arrivé à... Non pas du tout à une impasse, mais à un maximum. Et c'est ce maximum dont j'ai été très conscient à ce moment-là, qui m'a effectivement tué, qui m'avait tellement éloigné des autres, tellement éloigné, si vous voulez, même peut-être pas éloigné de moi-même, parce que ça venait de moi, c'était une évolution tout à fait normale, tout à fait logique, si vous voulez. Mais le résultat m'est tombé dessus, si vous voulez, complètement. Voilà. Et le résultat est, comme toujours, et comme maintenant, et comme pour tous les actes de ma vie, et je ne suis pas le seul, les actes de ma vie, je ne les vis pas du tout triomphalement, si vous voulez. J'ai toujours l'impression que je me trompe, mais moralement, si vous voulez. Là, c'était double. J'étais allé trop loin. Je ne suis jamais sûr de mon bon droit, voilà. Jamais sûr de mon bon droit, même maintenant. Je suis un peu moins tourmenté que maintenant, qu'à cette époque-là. Mais c'est cette notion de non-droit. Étant donné que j'étais le seul à aller loin, comme ça. Je me suis retrouvé tout seul, si vous voulez, en avancée. Et donc, il n'y avait plus personne. Je n'avais plus aucun écho. Il n'y avait plus aucun... Même les gens qui disaient que c'était formidable, je n'y croyais pas. C'est ça, vous voyez. C'est ça, la crise. Donc, vous êtes rongé par ça. Jour et nuit, sans arrêt, par ça. Et donc, vous êtes rongé de l'intérieur, et ça finit par vous ne dormez plus, etc. Et puis vous perdez la tête. Moi, j'ai perdu la tête à un certain moment. Je ne faisais pas de choses inconsidérées, mais je perdais la tête.
C'est-à-dire, vous ne saviez plus qui vous étiez ?
Plus tellement, ni où à certains moments, ni où j'étais. Alors, quand je remangeais un petit peu, ça, quand j'étais quelque part et qu'on s'occupait de moi un peu plus, alors à ce moment-là, je recommençais à retrouver le... Mais à un certain moment, j'ai perdu vraiment le sens de... Pas de l'orientation, mais du lieu où j'étais. Je l'explique de reste dans le coma, j'ai eu un passage où je... Et ça, c'est des périodes terrifiantes, ça. C'est des périodes terrifiantes. Ça se terrifie, ça terrifie... C'était terrible sur le coup, et c'est terrible après coup. Et puis vous maigrissez. Vous maigrissez, j'étais extrêmement maigre, j'étais jeune. Je n'avais plus de... Tout me faisait mal, oui. On me heurtait. C'est comme si on me heurtait directement l'os, quoi. Ou le muscle, ou le nerf. C'était très douloureux. Bon, à ce point-là, si vous voulez. Donc j'ai bien... J'ai ressenti ce qu'ont ressenti beaucoup de gens qui sont revenus des camps. Parce que c'est pas moi qui le dis. C'est le médecin de Brousset qui m'a traité en urgence, qui l'a dit. Qui l'a dit à ses élèves qui étaient autour de moi. J'avais encore un semblant, quand je suis revenu du coma, j'avais un semblant de conscience au bout de quelques jours et j'ai entendu ça. Et j'étais terrorisé par ça, bien entendu.
Mais c'est peut-être aussi votre mémoire qui vous a conduit sur ce chemin-là.
Alors on a dit, on a écrit que c'est parce que il voulait, c'est terrifiant de décrire ça, qu'il voulait ressembler à, que j'avais voulu ressembler à, justement à cet oncle, aux autres de ma famille qui étaient revenus.
Qui sont morts pendant c'est dans les camps.
C'est extrêmement obscène de dire ça. C'est pas, on ne veut jamais ça, voyons.
Non, mais on le vit peut-être pas consciemment, mais il y a peut-être une part de vous-même qui vous a emmené dans ce chemin-là.
Mais l'entendre après coup, c'est horrible d'entendre ça, si vous voulez. C'est une intrusion dans votre être et dans l'être des autres aussi, de ceux auxquels on vous compare. Mais c'est vrai qu'il y avait de ça, bien sûr.
Parce que ce qu'il y a d'incroyable, Pierre Guyotat, c'est que quand on lit vos livres, on a l'impression que vous êtes habité par plusieurs mémoires, par plusieurs histoires, par plusieurs vies, par plusieurs temporalités, et que bien malgré vous, d'ailleurs, vous êtes dépositaire de tas de vies. Et que donc, peut-être l'écriture aussi, et ce que l'écriture vous fait endurer aussi, vous mène quelquefois à ces moments de solitude extrême qui peuvent aller jusqu'à l'égarement. Je rappelle quand même que quand vous avez écrit ce livre qui s'intitule « Le livre », vous avez mis comme sous-titre sur la première page du manuscrit du livre « L'art de faire disparaître l'écrit ».
Oui, oui.
Évidemment, c'était un chemin, dangereux.
Oui, c'est un titre que je m'ai trouvé à l'époque, du reste. Avant même, avant même cette descente. Hein. Descente accompagnée d'angoisse extrême. Hein, extrême. Parce que l'angoisse s'attaque immédiatement à l'être qui est affaibli. C'est évident. Hein. Et qui continue de vivre dans la société.
Et donc, vous n'avez jamais perdu le lien ombilical avec le monde?
Non, pas du tout. Non, mais il était terrible. Il était menaçant. C'était un lien mythologique, presque, si vous voulez. Presque. Avec la mythologie la plus horrible. C'était un lien monstrueux, de toute façon. J'étais en direct, vraiment, avec tout ce que j'avais appris, tout le monde, tout ce monde mythologique dont j'avais été rempli enfant, déjà, si vous voulez. Un monde pathologique qui n'est pas toujours drôle.
Et vous avez fait confiance aux médecins?
Là aussi, j'ai laissé faire. Hein, j'ai laissé faire. J'ai ressenti cette chose extraordinaire de la peau qui se... C'est extraordinaire. Alors là, extraordinaire, vraiment, qui se reconstitue autour des os, autour de tout. Quoi. Les muscles qui se reconsolident, qui se retendent et tout. J'ai vraiment ressenti ça. La nuit, je me réveillais parce que j'avais des démangeaisons partout, si vous voulez. C'était ça qui se passait.
Donc c'est comme une renaissance.
Ça grouillait. Oui, c'est une renaissance.
Ça grouillait, vous dites.
Du reste, pendant longtemps, j'ai... Oui, mais c'était pas des vers, c'était la vie. C'était la vie, oui.
D'ailleurs, vous avez écrit ce texte incroyable qui s'appelle « Vivre ».
Vivre, oui.
Et qui, je le sais, est pour bon nombre d'entre nous une sorte de viatique pour la liberté l'espoir quand on va pas bien. Y compris chez les jeunes, hein. Je ne sais pas si vous le savez, Pierre Guyotat, mais ce livre « Vivre », c'est un livre très important que de nombreuses personnes ont dans la poche de leur manteau.
C'est
hein,
bien, c'est bien.
Au moment des coups de blues.
Oui, oui, je sais. Mais je n'en tire pas grand-chose, si vous voulez, moi-même. Je pense que c'était inévitable, ça, c'est ce qui s'est passé.
De passer par ce down.
Oui.
Pour pouvoir en revivre.
Mais même quand j'étais au pire moment, quand j'étais dans le pire, où je pouvais encore penser, je ne pensais jamais à...
Écrire.
Non, je ne pensais ni jamais à Rimbaud, ni jamais à Nordin, ni jamais à personne. Parce que c'est une expérience nouvelle. Ce n'était pas leur expérience. Je n'y pensais même pas. Et ça, de toute façon, ça ne m'aurait absolument pas aidé à faire quoi que ce soit. C'est ça aussi qu'on découvre, si vous voulez, c'est qu'on est unique. C'est ça que ça fait découvrir. Vous êtes absolument unique et irremplaçable, en tout cas unique. Et que ce que vous vivez, c'est pas ce qu'a vécu, Kafka, c'est pas ce qu'a vécu Odernine, c'est pas ce, etc. Et c'est, vous êtes même quelquefois dans le pire, quelquefois quand il vous arrive de penser à ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, je suis rien à côté, c'est rien à côté de ce qu'a vécu Odernine, c'est rien à côté de ce qu'a vécu machin, oui, c'est rien du tout. C'est rien, ou c'est pas rien, c'est pas ça, c'est pas ça. On peut croire qu'on le pense, mais pas du tout. Parce qu'on est unique, et qu'on, et c'est à soi de vivre ça. C'est à soi, à soi-même d'enfanter celui-là, ce personnage inconnu, ce maudit inconnu, si je puis dire, oui. Maudit nouveau. Les autres ne savent absolument rien dans ces moments-là. Rien du tout. Au contraire, ils...
Mais il y a peut-être eu aussi un nouveau cycle d'écriture qui a commencé et qui s'est imposé à vous, Pierre Guyotat, après, justement, ce coma. Et là aussi, hop, et ça c'est très impressionnant, vous dites que vous êtes rendu compte au cours de cette période que vous étiez unique, mais justement ce côté unique de votre individualité vous a ramené dans la période de l'enfance, pour pouvoir fixer.
Oui, sans doute, oui, certainement. D'abord, ça m'a ramené à la... De cette crise, je suis sorti avec la nécessité de l'oralité, comme on dit, du verbe, de la langue, du verbe, et je l'ai fait, d'où le théâtre, etc. Et puis, l'oralité. Et puis, effectivement, oui, l'enfance, effectivement. Parce que quand vous avez subi un choc pareil, parce que c'est ce que les autres disent aussi, qui vous font... Pensez que vous avez traversé une période terrible, ce que vous-même vous osez à peine le dire, car vous savez quand vous sortez du coma, sortez d'épouvante, car c'est de l'épouvante quand même, vous sortez de ces immenses rêveries terrifiantes qui vous tirent à hu et à dia, c'est le cas de le dire, hein, comme un cheval écartelé, ou là vous êtes écartelé par des chevaux, enfin c'est terrifiant, dans les services de réanimation, vous êtes dans l'incapacité. Moi, j'étais dans l'incapacité pendant 2 ans de dire je, ou de me penser en je, et donc de le dire. Je pouvais le dire comme ça rapidement, juste rapidement. Oui, c'est parce que vous n'êtes presque plus rien, quoi. Dire je, c'est une espèce de chose presque obscène par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Parce qu'on a au moins la conscience qu'on a vécu quelque chose de terrible, que tout de même tout le monde ne vit pas, d'une certaine façon peut-être. Enfin, il y a des gens qui vivent ça, mais qui ne le disent pas aussi, qui n'ont pas les moyens de le dire. Beaucoup de gens, hein, je le sais maintenant. Mais si vous voulez, c'est obscène de mettre le moindre mot là-dessus pendant très longtemps. C'est tellement à vif. Et ce qui est à vif, c'est tout de même quelque chose qui n'est pas courant. C'est l'au-delà. C'est votre au-delà. Et ça donne une idée. Ce qu'on vit là, c'est une préfiguration, tout de même, de ce qui peut-être nous arrivera, enfin m'arrivera en tout cas. Et c'est pas spécialement souhaitable. C'est l'au-delà. J'ai vécu une sorte d'au-delà. Et tous les gens qui sont passés par là le disent. Hein, vous savez, c'est la fameuse histoire du corps qui est... On se voit au-dessus de soi. Le corps est suspendu et on se voit en bas. On voit une espèce de reste vaguement lumineux, et soi, enfin ce qui reste de soi, est suspendu en quelque sorte.
Mais en même temps, quand on en sort, comme c'est votre cas, Pierre Guyotat, on en sort peut-être complètement différent, peut-être plus fort, avec un goût de vivre et de regarder le bleu du ciel autrement.
Je peux vous dire que j'avais... dans la période juste après le coma, quand je me suis réveillé, j'avais vraiment pas envie de vivre. J'avais envie de replonger, et de replonger définitivement cette fois-ci. Je n'avais pas vraiment envie de vivre, il me semble, hein, parce que j'avais pas mal de très proches autour de moi, et qui me demandaient de vivre, qui m'imploraient de vivre. J'ai quand même entendu ça. C'est extraordinaire, ça aussi. Ça fait froid dans le dos. Et c'est vécu, on le vit comme une... Enfin, comme une agression, ça, oui. C'est étrange. J'ai vécu comme une agression.
Mais oui. Vous avez accepté, pour eux, de continuer à vivre.
Je sais pas, non, je sais pas. Vous savez, c'est une question de hasard, aussi. En plus, le milieu de la réanimation, je veux dire, l'hôpital public est une chose magnifique, par ailleurs. Hein. Pas du tout. Mais la réanimation, c'est un endroit terrifiant. C'est terrible. Pour qu'il y ait vraiment. Hein, c'est un atelier. C'est un atelier de vie et de mort. C'est horrible. Donc vous êtes là, tout seul. Tout seul. Enfin, non, puisque vous n'êtes même pas. Vous n'existez plus. Vous n'êtes plus qu'un écho de vous-même. Et cet écho de vous-même, c'est l'écho des phrases des infirmières, l'écho des. Enfin, j'ai expliqué ça. Hein, tout ce qui râle, tout ce qui déjecte, tout ce qui aspire, tous les tuyaux qui font de tous les aérosols, tous ces bruits-là deviennent des bruits terrifiants qui deviennent les bruits de votre corps mythologique, de votre corps, enfin de votre âme mythologique, de votre être mythologique, si vous voulez. Et c'est terrifiant. Pour qui a un petit peu connu la mythologie grecque, etc. Comme c'était mon cas, il y avait des choses qui ressortaient malgré moi. Vous voyez, j'étais dans les enfers. Et le pire endroit, le pire endroit, si vous voulez. Ou alors le tombeau égyptien, par exemple, mais muré. Complètement, oui, muré forcément, mais complètement. La moindre chose, on a l'impression que la moindre pensée, quand il y avait un embryon de pensée, ou de rêve, ou de désir, pas de désir sexuel, il n'y a plus rien, mais de désir, d'être soigné, d'être caressé, tout ça, vous avez un écho tout de suite, vous avez toujours un bruit dans l'atelier de réanimation, si vous voulez, vous avez toujours un bruit qui fait écho à ce que vous avez d'embryon de pensée aussi. C'est absolument terrifiant. Vous avez presque une image de l'au-delà qui serait une sorte de terrifiante chambre d'écho. Vous voyez, je ne veux pas affoler l'auditeur, mais une terrifiante chambre d'écho à vos moindres. La chambre de la conscience, si vous voulez, d'une certaine façon. Comme si toutes vos arrière-pensées avaient un écho immédiat, étaient rendues publiques immédiatement, presque aux quatre coins du monde. Ou en tout cas là où il ne faut pas. Là où il y a des monstres qui sont prêts à vous reprendre. Enfin, c'est terrible. C'est un moment. Et quand vous sortez de là, vous êtes vanné, vous êtes épuisé, vous n'avez plus de larmes pour pleurer, vous n'avez plus rien. Vous avez encore un petit peu de respect humain, quand même. On réagit quand même, ça c'est une chose qui reste, ça.
De respect pour vous-même ou de respect
non.
pour les autres ?
Non, de respect, non. Il y a certaines choses qui sont blessantes. Qui ne sont pas du tout pour ceux qui parlent ou qui font ou qui vous touchent, qui vous voyez, mais ça justement, cette intrusion, vie pour nous faire plaisir, c'est ce que disent les proches, bien sûr, c'est normal, nous faire plaisir ou nous faire plaisir, c'est le mot qui vient, notre mot, c'est pas possible, et c'est un mot atroce, ça vous. Oui, enfin vous l'entendez, vous êtes en train de partir, quoi. Vous partez, vous avez envie de partir. Comme ça a commencé, voilà. Ça a commencé, c'est pas si terrible. allons-y. Et puis on entend pour nous faire plaisir. Et là, il faut revenir et tout reprendre. C'est l'horreur.
Revenir de l'autre côté du fleuve, comme dans la mythologie égyptienne, vous en parlez exactement de la même manière.
Oui, revenir, et replonger dans l'affect, les normes affectes des proches, des uns des autres, de tout le monde, tous les normes. Voilà, alors que vous êtes dans un monde, au contraire, qui risque de devenir agréable, voilà.
Il va falloir s'occuper des autres si on reste vivant, en quelque sorte,
voilà. Pierre Guyotard. Non, c'est pas ça, non. Mais ça va recommencer, l'arrière-pensée, l'impureté, en quelque sorte, l'impureté, c'est ça. Alors que vous, et aussi la fatigue va recommencer, quand vous êtes très fatigué.
Mais enfin, ne plus être au monde,
et vous avez fait
c'est
une
pas la solution pour
et vous
la
avez
pureté
fait une
non
partie,
plus.
Vous avez fait une grande partie du trajet. Si vous voulez, vers la disparition. Vers ce qui apparaît déjà comme une zone agréable, si vous voulez. Après les grands rêves terrifiants, les grands trucs, là, vous arrivez vers quelque chose qui a l'air d'être calme. Peut-être que par derrière encore, il y a quelque chose de terrifiant, mais là, vous arrivez dans une zone... Et on aimerait, je dis bien on aimerait qu'on vous laisse, qu'on vous y laisse.
D'une certaine façon. Mais en même temps, vous avez décidé de rester vivant.
Je n'ai pas décidé, j'en sais rien. C'est venu comme ça, vous savez. Moi, les décisions, il y en a suffisamment dans la vie de décisions, vraiment de décisions, mur après mur, réflexion, etc. Pour que ce genre de choses, on puisse éviter de le mettre dans la catégorie des décisions, je pense.
Ça vous est arrivé?
C'est arrivé, voilà. Maintenant, je suis d'une nature naturellement, résistante, je ne sais pas comment dire. J'aime la vie, c'est évident. J'aime beaucoup vivre, tout en pensant que ça n'a aucune importance. Mais enfin, j'aime vivre, c'est vrai. On aimerait pouvoir vivre sans ces espèces de petits appâts, si vous voulez. On aimerait pouvoir vivre parce qu'on aime vivre. Mais ça, c'est encore le désir d'absolu. Non, ce qui mène tout ça, c'est le désir d'absolu. Et c'était ce qui était chez ma mère, c'était sa plus grande qualité. C'est que l'absolu existait pour elle. L'absolu en ce monde. Pas seulement là-haut, elle était croyante, mais c'était l'absolu en ce monde. L'art représentait certainement un absolu.
Ben merci Pierre.
Voilà.
Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Philippe Thibault, Anne-Vanessa Prévost, Catherine Parent, Didier Lagarde, Brigitte Bouvier. Bonne soirée à l'écoute de France Culture, à 23h30 du jour au lendemain à la Weinstein, mais tout de suite les passagers de la nuit, Thomas Baumgartner.